Ouais, parce que c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle. C'est beau, Raphaël, tout est beau. Genèse 48, c'est notre texte. C'est notre texte, mais on va aller un peu dans d'autres endroits dans les Écritures ce matin. Bénir le Dieu fidèle. C'est le titre du message. On va simplement s'introduire avec les quatre premiers versets que je vais lire, ensuite je vais prier. Et vous partager quelques petites choses par rapport à la vie ici finissante du patriarche Jacob. Je vous rappelle qu'on a vu Abraham, Isaac, et là on voit le troisième, c'est un trio dans les Écritures. Donc on est rendu à Jacob, ou qui a changé de nom pour Israël, celui qui combat avec Dieu. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples, je te donnerai ce pays à toi, à ta postérité, ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » Seigneur, on veut s'arrêter juste pour considérer les Écritures vers lesquelles tu nous diriges ce matin. Merci pour le livre de la Genèse. Il est tellement riche. C'est le livre des commencements. C'est le livre aussi des grandes leçons de vie. Souvent, on voit des choses à leur état brut. Merci pour ta révélation. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Merci qu'on peut plonger ce matin nos regards dans la parole de vie. Je prie que tu en fasses porter beaucoup de fruits à ta gloire. C'est pour ça qu'on te prie, Seigneur, parce que seulement toi peux faire ces choses. C'est surnaturel, c'est toi qui sauves, c'est toi qui convaincs, c'est toi qui sanctifies. Donc, Seigneur, on s'en remet totalement à toi, au nom de Jésus. Amen. Bénir le Dieu fidèle. Jacob ici, qui est en fin de vie, il repense un peu les choses dans son cœur. On va le voir à travers le message. Il y a toutes sortes de choses lorsqu'il parle ici qui sont c'est des éléments essentiels et majeurs de sa vie qui nous rappellent la fidélité de Dieu dans sa vie qui pourrait se résumer à « Même si on n'est pas fidèle, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. » On sait que ce patriarche n'est pas un exemple de fidélité à tous égards, de celui qui n'a jamais fait d'erreur. Et je trouve que c'est bien parce que dans les Écritures, on voit comme ça des gens à qui on peut s'identifier parce qu'on regarde nos vies des fois et on se dit « Ah, j'ai donc bien fait des erreurs de parcours, j'ai donc bien échoué à donc bien d'endroits. » Bien ici, on voit ce patriarche qui, de cette manière, par son vécu, par là où il est passé, bien, il en arrive à cette conviction dans sa vieillesse. Lui qui est passé d'une vie de manigance, et c'est ce que Jacob nous rappelle. Jacob, c'est celui, c'est l'usurpateur, c'est ça que ça veut dire. Il est passé à une vie surnaturelle. Israël, celui qui combat même avec Dieu. Donc, la chair versus l'esprit, les voies de l'homme versus celles de Dieu. Et il se rappelle que c'est toute la fidélité de Dieu qui a fait ça. Et il est rendu au point de sa vie où est-ce qu'il a expérimenté, puis qu'il peut dire en esprit, en vérité, que Dieu est bon. Il peut dire, comme ça dit dans 1 Pierre, il a goûté comment l'Éternel est bon. C'est une citation du psaume 34:9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et vraiment, il pouvait le voir, lui qui maintenant bénissait le Dieu fidèle. Et je dirais la clé pour arriver là, non seulement pour Jacob, mais pour nous autres aussi, c'est le brisement. On voit dans la vie de Jacob la puissance du brisement. Et c'est quoi le brisement? C'est quand Dieu brise nos patterns, tu sais, nos façons de faire, nos façons de dealer avec la vie, où est-ce qu'on est tout habitué de même, mais Dieu brise ça pour nous enseigner ses voies, celles de l'esprit. Il brise nos façons de penser, nos motifs, il brise pour reconstruire. Il brise pas parce qu'il est méchant puis il veut nous rendre misérables. En fait, c'est pour nous délivrer de notre misère. C'est nos patterns qui nous rendent misérables, mais Dieu brise ça pour les remplacer par ceux de l'esprit, par ses voies, par sa pensée. Et donc, notre cher Jacob ici bénit le Dieu fidèle. Et c'est pas fait de façon artificielle ou forcée. Tu sais, on peut dire, ah, béni soit Dieu, gloire à Dieu. On peut dire des choses, des fois, dans la vie chrétienne, un peu sur le pilote automatique. Parce que c'est sûr qu'un chrétien, ça dit, s'il y a une épreuve, bien, il n'est pas supposé se plaindre, il est supposé dire, ben, merci Seigneur. Des fois, c'est plus facile de dire que vraiment l'avoir la conviction dans le cœur. Ici, je crois que Jacob n'était pas obligé, c'était vraiment dans la profonde de son cœur qu'il disait ces choses. Pourquoi? Parce que c'était le fruit d'avoir été éprouvé. Et dans nos vies, on va vraiment expérimenter la grâce de Dieu, la liberté qui vient de par marcher par l'Esprit lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on arrive nous-mêmes avec l'épreuve de notre foi à se rendre compte comment Dieu est toujours bon, il est toujours fidèle au rendez-vous, qu'on peut le dire en esprit et en vérité. C'est pas juste des belles paroles, c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes, c'est authentique, c'est le fruit de connaître Dieu. Un peu comme Paul, qui justement a eu une grande vie de persécution, de rejet, d'épreuve, puis il dit que toutes les choses avant qu'il regardait comme précieuses, même s'il y avait toutes ces épreuves-là dans Philippiens écrit, est en prison à cause de Christ, il dit ces choses-là avant que je regardais là, comme hey, des grandes choses, des accomplissements, maintenant je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Parce que je les compare à l'excellence de la connaissance de Christ, mon Sauveur. Et c'est ça ici dont il est question. Bénir le Dieu fidèle, c'est en connaissance de cause, d'avoir expérimenté pour nous-mêmes sa bonté, sa fidélité, sa grâce. Il avait grandi en maturité. Il avait grandi dans sa relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Et ça commence en devenant son enfant par le salut en Jésus-Christ. Et c'est l'histoire d'une vie lorsqu'on grandit dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, on voit ici, on entend ça chez Jacob et on va voir ça ensemble avec, pour nous éclairer, là, on va regarder trois raisons de bénir le Dieu fidèle. Trois raisons. On va les voir de la bouche même du patriarche ici. D'abord, dans les versets 3 à 4, on vient de lire les versets 1 à 4, mais dans les versets 3 à 4, il se remémore la fidélité de Dieu. Première raison de bénir Dieu, se remémorer sa fidélité. C'est drôle parce qu'au verset 3, Jacob dit à Joseph, donc le père dit au fils, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. » Puis il continue avec ce qu'on a lu tantôt. Luz ici, est-ce qu'on a ici des gens qui sont assez ferrés, qui sauraient qu'il y a un autre nom à cette ville, et c'est quoi le nom de cette ville, qui n'est pas sans importance? Ça, c'est le vieux nom, mais à cause de justement ce que Jacob a vécu, ça l'a changé de nom. C'est quoi le nom? Bethel. Puis c'est pas une ville sans importance au niveau rédempteur, l'histoire de la rédemption. Donc, lui, c'était le nom cananéen que Jacob a renommé Bethel, qui veut dire quoi? Maison de Dieu. OK? Et ça, c'est dans Genèse 28. Donc là, venez avec moi, là, gardez votre place ici dans Genèse 48. Bon, on va d'abord une petite incursion dans Genèse 28, voir quelques versets ensemble. Parce que Genèse 28, c'est le premier de deux points tournants dans la vie de Jacob. Tu sais, des fois, on peut grandir, on a une étape qui se passe. Merci Seigneur, j'expérimente ta grâce, j'apprends à te connaître dans ta fidélité, dans ta bonté. Ça nous amène à quelque part, puis on dit, « Hey, c'est super, merci, moi. » Est-ce qu'on est parvenu? Puis est-ce qu'on n'a plus rien à apprendre? Non, évidemment, on a toujours à apprendre. Puis ça ici, c'était un premier pas. Vous allez voir, c'est aller plus loin. Puis même encore à la fin de sa vie, dans Genèse 48, il n'avait pas fini d'apprendre. Mais ici, on a un point important dans la vie de Jacob. Genèse 28, lisons d'abord les versets 18 et 19. Ça va nous dire pourquoi ça a changé de nom. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il dressa un monument. Et il versa de l'huile. Ça, c'est parce qu'il adorait Dieu. Il a fait un endroit d'adoration. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. OK? Donc, on voit, il a changé de nom. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu avait confirmé son alliance. Regardez ce que Dieu lui a dit au verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché. » Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Exactement comme il avait dit à ses pères. Verset 15. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Là, c'était plus juste le Dieu de ses pères, c'était rendu personnel. Et ça, c'est suite à cette vision qu'il avait eue. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais la vision de Jacob, où est-ce qu'il a vu une échelle qui monte au ciel, puis les anges qui montent, puis qui descendent. C'est là que Dieu lui est apparu, à Bethel, à cet endroit. C'est pour ça qu'il a appelé ça la maison de Dieu. Hein, vraiment, Dieu est dans cette place. Et lui a répondu par la foi, parce que Dieu il a montré des belles choses ici. Oups, c'est moi qui ai perdu ma page. On vient de lire ça, mais regardez la réponse par la foi ici de Jacob. On a ça au verset 20. Jacob fit un vœu. Donc après tout ça, là, Dieu s'est révélé à lui. Il a changé le nom de la place. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Puis, on peut faire un peu un parallèle, on n'ira pas le voir, ça serait trop long, mais dans le chapitre 32, où est-ce qu'il le fameux passage où est-ce qu'il se bat avec l'ange de l'Éternel, avec Jésus, une préincarnation de Jésus. Puis là, il se bat, puis là encore là, il lutte avec Dieu. Dieu change son nom. Là, c'est drôle parce que il avait changé le nom de la ville à Luz, mais là, ici, c'est Dieu qui change son nom. Il dit, tu vas plus t'appeler Jacob, l'usurpateur, tu vas être Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as vaincu. OK? Puis, il y a aussi, parce que bon, puis aussi, il a changé le nom de cet endroit qui a appelé Péniel. Jacob a donné dans le chapitre 32 le nom de Péniel à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face. Péniel, ça veut dire la face de Dieu. Donc, on voit Jacob qui grandit dans la grâce, qui va de progrès en progrès pour arriver à connaître de plus en plus son Dieu. Et tout ça, Jacob s'en souvient. Quand on retourne dans Genèse 48, Jacob, quand il parle de Luz, là, c'est tout le bagage. On a fait une petite excursion là, dans le passé, dans les pensées de Jacob, tout ce qu'il pouvait se remémorer lorsqu'il disait que Dieu a été fidèle, qu'il a été là avec lui. Il s'est manifesté à lui, malgré que, hein, il avait fait toutes sortes de manigances et tout ça. Dieu a toujours été fidèle. Puis ça l'a amené à l'adoration. Non seulement ici dans chapitre 48, mais aussi dans les deux chapitres auxquels on vient de référer. Tout ça, c'est une adoration qui était fondée dans la réalité d'une relation avec Dieu, la réalité de la fidélité de Dieu. Et c'est parce que Dieu avait été celui qui avait été toujours fidèle à agir dans la vie de ce patriarche. Maintenant, on va voir une petite application pour terminer avant de passer au prochain point. Connaissez-vous 2 Timothée? 2:8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. N'est-ce pas spécial que Paul, un apôtre d'expérience, dit à Timothée, qui est rendu là un pasteur d'expérience sur l'île d'Éphèse, souviens-toi de Jésus-Christ. Pourquoi tu dirais ça? C'est comme deux vieux messieurs qui se parlent, en tout cas, le plus vieux c'est Paul, là. Deux chrétiens d'expérience disent, hey, Maxime, souviens-toi de Jésus-Christ, oublie-le pas, là. Tu sais, on sait évidemment que l'idée, ce n'est pas parce qu'il faisait de l'Alzheimer et il ne se rappelait plus du nom. C'est un peu comme avec l'idée du repas du Seigneur. N'oublie jamais, ne prends jamais pour acquis qui est Jésus-Christ dans ta vie. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu es en lui? Qu'est-ce qu'il est? Ce qu'il a fait? Souviens-toi de ça. N'oublie jamais ça. Que ça reste toujours précieux, que ça reste toujours ton plus grand trésor. Prends-le jamais pour acquis, lui dans sa grande fidélité, qui non seulement s'est fait connaître à toi dès le moment que tu étais sauvé, mais aussi tout le reste de ta vie, il a toujours été fidèle à se révéler à toi. Souviens-toi de Jésus-Christ. Là-dessus, je vais vous donner une petite illustration que je ne sais pas si vous avez faite. Savez-vous c'est quoi la nostalgie? C'est pas bon la nostalgie bibliquement parlant. La nostalgie, l'exemple biblique qu'on a de nostalgie, on a ça dans le livre de la Genèse aussi, avec une femme. Vous savez, c'est quoi la personne qui nous rappelle la nostalgie dans la Bible? Oui? La femme de Lot, qui est devenue une statue de sel. Ah, oh, c'était donc beau là-bas, puis elle s'est retournée. OK? Puis Jésus, plus tard, en parle en disant « Souvenez-vous de la femme de Lot. » On dit, il y a une leçon à tirer de la femme de Lot. C'est quoi la nostalgie? C'est vouloir le plus beau du passé. Avoir une mémoire sélective qui se rappelle de tout ce qui était donc beau dans les beaux jours. Ça, c'est de la nostalgie. Ça, c'est pas nécessairement se souvenir de Dieu. C'est se souvenir de ce que Dieu a fait, mais en oubliant ce qui nous déplaît. Et la nostalgie est différente de la reconnaissance ou de la gratitude. Ça, c'est un regard sur le passé, mais en se rappelant la fidélité de Dieu dans les bons, autant que dans les mauvais moments. Comme, encore là, un exemple biblique, Samuel qui dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Est-ce qu'il avait une mémoire sélective et il se rappelait juste les beaux moments et tout ce qui allait bien? Non, parce que ça n'allait pas si bien. Quand Samuel a dit ça, il y avait tout qu'un passé dans ce qu'il dit, mais c'est vrai, l'Éternel avait toujours été là, était reconnaissant, il y avait de la reconnaissance. Un autre exemple, notre fameux Élie, qui était tout déprimé parce que là, il avait fait tomber le feu du ciel dans 1 roi 18, mais là, les choses n'avaient pas changé. Le peuple était retourné à l'idolâtrie, puis il dit « Je ne suis pas mieux que mes pères. » Fait que là, je pense qu'il tombait un peu dans la nostalgie. Ah, le bon vieux temps où est-ce que Dieu était adoré par Israël, puis tout ça. Il était nostalgique. Il aurait voulu revenir au beau jour. Mais savez-vous quoi? Dieu ne nous appelle pas à revenir au beau jour. Écoutez bien. Dieu nous appelle à revenir à lui en ce jour. C'est ça la gratitude. Dieu, tu as toujours été là, fidèle. Puis c'est encore là aujourd'hui. On peut dire merci pour les beaux jours. C'est pas nécessairement mauvais de se rappeler des beaux jours. Mais on ne peut pas les revivre, on ne peut pas revenir en arrière. On peut revenir à Dieu dans ce jour. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu nous donne, qu'on l'adore. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Donc, première chose, se remémorer sa fidélité. Deuxième, et là, on ne va pas le lire parce qu'on l'a lu tantôt dans la prière, mais le fameux switcheroonie qui se passe là, avec les deux fils, là, qui a les mains de même, là, c'est un peu drôle, pareil, comme situation. On voit dans les versets 8, la deuxième raison de bénir Dieu, c'est se confier dans sa souveraineté. Je vais vous expliquer un peu où on s'en va avec ça. Là, vous savez qu'il y avait deux fils. Puis là, ça fait drôle parce qu'il dit, ces deux fils-là sont à moi, puis les autres sont à toi. C'est pas parce que là, il allait déménager chez le grand-père, puis tout ça. C'est l'idée, c'est, ici on parle, c'est plus symbolique, OK? C'est plus, sont à moi, dans le sens que c'est le fruit de ta vigueur, OK? C'est plus une question par rapport qui est reliée à la bénédiction, OK? Puis justement que lui, sa fortune, Jacob, allait à ces deux-là, OK? Fait que c'est un peu ça ici l'idée, parce que Jacob, lui aussi, avait sa fortune, puis ça allait aller aux autres fils qu'il avait eu, OK? Fait que c'est ça qu'il veut dire à moi puis à toi, là. Mais là, il arrive cette chose qui n'était pas supposée, parce que normalement, le plus vieux, Manassé, puis c'était pareil aussi avec Ésaü puis Jacob, le plus vieux, premier-né, était supposé avoir la part du lion, le plus gros de l'héritage. Puis l'autre en avait, mais moins, OK? C'est pour ça que la main droite allait sur le plus vieux pour la plus grande part d'héritage, bénédiction, puis le plus jeune, la main gauche, OK? Sauf que là, il a littéralement fait ça, le père, même s'il était aveugle, OK? Parce qu'il savait bien que le plus vieux était à droite, mais il a fait ça de même, OK? Puis c'est pas parce qu'il était aveugle et qu'il n'avait pas compris, parce que le fils, Joseph, dit « Hey, tu te trompes, là! Alors, change de bord! » Il dit « Non, je le sais. » Puis je le fais comme ça. C'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé que c'était comme ça, que Ephraim allait être au-dessus de Manassé. Non, on a le mot Ephraim, c'est de là que ça vient. Tu sais, c'est un vieux nom, là, Ephraim, là, mais Ephraim. Donc, Manassé était supposé d'être le plus grand, lui qui était le premier-né des deux, mais c'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a permis, a autorisé, a dirigé le switch. Le changement, c'était son plan qui s'accomplissait. Autrement dit, tout était sous contrôle parce que c'était sous le contrôle de Dieu. Et là, il y a une sécurité qu'on peut trouver, nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, de dire « OK, Dieu, t'es au contrôle. » On peut se confier, se reposer dans le fait que Dieu est 100% souverain dans 100% de nos circonstances, de nos relations, de notre vie. D'ailleurs, la souveraineté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui devrait nous faire peur. C'est plutôt une vérité que Dieu nous donne pour nous réconforter, pour nous rassurer lorsqu'on ne sait plus où donner de la tête. Un autre exemple biblique, le roi David, qui est un autre saint de l'Ancien Testament qu'on voit dans ses défauts autant que ses qualités. C'est un homme selon le cœur de Dieu, il est un vaillant guerrier, mais il y avait des péchés. Et l'un de ceux-là, c'est lorsqu'il a fait le recensement du peuple. Ça, c'était par orgueil, se vanter de la grande armée qu'il avait, puis tout ça, il n'était pas supposé de le faire, puis même que son général l'a averti, « T'es sûr que tu veux faire ça? » Il a continué, il l'a fait pareil. Puis une fois qu'il l'a fait, le prophète est allé pour lui dire, « Il y a des conséquences, il y a du monde qui va mourir. » Puis là, il avait comme trois options devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est confié à la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? David répondit à Gad. Ça, c'est le prophète qui est allé voir pour dire, « Hey, là, t'es dans le trou parce que t'as péché contre Dieu. » Donc, il répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Il s'en est remis complètement à la souveraineté de Dieu. C'est là qu'il a trouvé la rédemption. C'est là que nous aussi, on trouve la sécurité. Puis pensons ici à David. C'est un bon exemple de se confier dans la souveraineté de Dieu. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Il ne savait pas comment les choses allaient tourner. Il avait une idée, mais il a complètement laissé ça dans les mains de Dieu. Qu'en est-il de toi ce matin? Aimes-tu mieux tomber entre les mains de l'Éternel? Et je dirais ta réponse va être proportionnelle à ta connaissance de Dieu, ton appréciation de Dieu, de ta relation avec lui. Pourquoi? Parce que quand on apprend à connaître Dieu, on se rend compte que c'est pas mal mieux de tomber dans les mains de Dieu que de n'importe qui. Puis, évidemment, ça c'est l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la croix. Mais c'est quoi la croix? C'est tomber dans les mains de Dieu. Le Dieu rédempteur, le Dieu qui donne la vie à ce qui est mort, qui justifie l'impie, le coupable. D'ailleurs, c'est dur de se confier dans quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que la Bible dit que le salut, c'est connaître Dieu. Pas juste répéter une prière, c'est pas juste suivre la foi de quelqu'un d'autre, c'est moi me confier en Dieu pour moi, mon besoin. Mon besoin d'être réconcilié avec Dieu, mon besoin de vie, moi qui est mort. C'est dur de se confier dans un inconnu, mais Dieu n'est pas resté inconnu. Dieu s'est fait connaître à nous, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus a dit d'ailleurs à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment me dis-tu? Montre-nous le Père. Puis aussi l'Épître aux Hébreux, qui nous dit, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Avant, il parlait par les prophètes, mais les derniers temps, ça a commencé avec Jésus. Il y a 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on est dans les derniers temps, avec le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu s'est fait connaître. Dieu n'est pas un étranger inconnu qui reste dans son coin. Il s'est fait connaître, s'est manifesté, s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Puis même encore, il se révèle aux perdus par le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. De mon péché, la justice de Christ, puis du jugement. Qu'est-ce que je fais de Dieu le Fils qui est venu pour la rédemption des péchés? Puis il se révèle aussi à ses enfants, savez-vous, c'est quelque chose de merveilleux. Lorsqu'on ouvre la parole, lorsqu'on s'ouvre à Dieu, il se révèle à nous. Pas une nouvelle affaire qui n'était pas là, mais Dieu va illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse s'émerveiller de lui, qu'on puisse le connaître toujours de plus en plus, le découvrir, ce Dieu infini. Savez-vous quoi, que ce soit pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu ou quelqu'un qui le connaît, le modus operandi est le même. Pour connaître Dieu, le prix, ce qu'on a à faire de notre part, c'est se confier en lui. Se confier dans ce Dieu souverain. C'est comme ça qu'on connaît Dieu. C'est la confiance. Dieu, j'ai peur, mais je me tourne vers toi. Dieu, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Dieu, je suis tout confus, mais toi, tu es la vérité. C'est comme ça qu'on arrive à connaître Dieu. Se confier dans même le peu qu'on peut connaître de lui, se confier là-dedans. Et ça, c'est toute une raison de bénir Dieu, parce que c'est le moyen comme ça, lorsqu'on se confie en Dieu, c'est le moyen d'expérimenter sa grâce, la grâce de sa vie, sa joie, sa paix, une relation vivante, grandissante, satisfaisante, réconfortante, puissante, surnaturelle. C'est la deuxième raison pour laquelle on peut bénir le Dieu fidèle, se confier dans sa souveraineté. La troisième et dernière, reconnaître sa longanimité. C'est un mot qu'on utilise peu. La vieille Louis II prend ce mot-là. Je ne sais pas comment c'est traduit maintenant. Mais en anglais, c'est « long suffering ». J'aime ce mot-là. L'idée, c'est comme une endurance à demeurer dans un état difficile et souffrant. « Long suffering », en français, c'est « longanimité ». J'explique ça avec les versets 21 et 22. Vous êtes là dans Genèse 48. « Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu... » Oh, soulignez ça dans vos Bibles quand vous voyez un « mais Dieu ».« Mais Dieu sera avec vous et vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Remarquez l'assurance ici du patriarche en disant « mais Dieu ». Là, ce qui est une il est face à la mort, là, c'est imminent. Il est vraiment dans ses dernières journées, peut-être même ses dernières heures. Mais il est 100% sûr de la fidélité de Dieu face à sa progéniture, face aux promesses qu'il a faites non seulement à lui, mais aussi pour ses descendants. Ce « mais Dieu », c'est un « mais Dieu » de confiance dans la fidélité de Dieu. Et ça, ça le pousse à l'adoration. Et j'aimerais amener un peu d'eau au moulin par rapport à ça. Et pour ça, il faut qu'on recule juste un petit peu. Regardez, là, on est dans Genèse 48. Regardons la fin du chapitre 47, verset 31. « Jacob dit, jure-le-moi, et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. » OK. Là, ici, on a une image. Il se prosterne. Il est tout magané, le pauvre monsieur. Là, il est vieux, il ne peut plus trop marcher, puis il ne voit plus. Mais là, il se prosterne dans sa vieillesse. OK? C'est un acte d'adoration. Et donc, on essaie ici dans Genèse, on a une lumière néo-testamentaire qui nous a amené là-dessus. Si vous voulez regarder dans Hébreux au chapitre 11, verset 21, mais je vous lis ici, on peut lire de ce même événement ici dans Genèse 47. « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, ça c'est Genèse 48, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Fait qu'on voit que son chevet, là, il y avait aussi son bâton qui était relié à ça. Bâton qui était relié à un événement important dans sa vie. Pourquoi il se promenait avec un bâton? C'est pas juste parce que c'était un berger puis un pèlerin. C'est parce qu'il boitait. C'était un boiteux, notre cher Jacob. Et pour ça, je vous dis, on va expliquer un peu tout ça. Mais d'abord, j'aimerais juste vous dire qu'ici, bon, il bénit le Dieu fidèle avec le fait que justement, il se confie dans sa fidélité pour l'avenir. Il sait que lui va mourir, mais le plan de Dieu est loin d'être fini. OK? Donc, il bénit le Dieu fidèle en bénissant ceux qu'il aime, hein, ceux que Dieu lui a confiés, il les bénit. Hein, il bénit Joseph, ses fils, puis après ça, tous ses autres fils. Il redonne le bien que Dieu lui a fait. Toute la bonté que Dieu a eue envers lui, autant dans le domaine physique avec des héritages qu'il donne ici, mais aussi au niveau spirituel d'être la prospérité promise, celle de laquelle va venir le Messie. Il partage ça par sa foi avec sa progéniture, mais aussi... Il bénit Dieu en l'adorant en esprit puis en vérité. Puis ici, ça nous dit appuyer sur l'extrémité de son bâton. Et le bâton ici nous révèle quelque chose. Voulez-vous que je vous explique un petit peu? Ou je voulais qu'on finisse au plus vite puis que j'aille à la conclusion? C'est pas très long, je vais aller vite là, parce que si vous n'avez pas soif de la parole, vous n'avez pas le goût trop d'entendre. Non, amen, on va prendre le temps. C'est pas long, là, mais le fameux bâton, c'est parce qu'il y a quelque chose ici. Je dirais que c'est vrai, c'est un peu comme l'héritage spirituel. C'est rien qu'un bâton, là, on peut juste dire ça de même, mais ça représente l'héritage spirituel de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu, il y a eu cet événement, un point tournant, le deuxième, Genèse 28, il a vu l'échelle, il a changé le nom de la place, Bethel, mais le deuxième point tournant, à Peniel, lorsqu'il s'est battu contre Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a frappé. Puis il n'a pas frappé n'importe où comme ça, n'importe comment, il l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Ça, si vous allez voir un docteur, il va vous dire que physiologiquement, l'emboîture de la hanche est le point le plus fort du corps humain. Parce que c'est là, imaginez-vous le tout, quand on parle de se pencher, quand on parle de courir, puis, OK, c'est un point névralgique où est-ce qu'il y a une force qui est là, où est-ce que ça réunit beaucoup de tensions au niveau, OK, gravitationnel et tout ça. C'est le point fort du corps humain. Dieu l'a frappé précisément là. Pensez-vous que c'est un hasard? En fait, c'est justement pour montrer Jacob, ce qui est ta force, ton point fort, je le brise. C'est le brisement de Dieu. Dieu a brisé le point le plus fort de son corps comme il brisait le point le plus fort de son caractère. Jacob était quelqu'un qui réussissait tout le temps à s'en sortir. Il y avait un problème, il faisait ci, puis il faisait ça, il parlait à sa mère, puis là, il s'organisait, il faisait des manigances. À partir de Genèse 32, c'est fini les manigances. Il n'essayait plus de plan A, plan B. À ce temps, il y avait un plan, c'était celui de Dieu. Dieu, je vais me confier en toi. Fait que le bâton lui rappelait que c'est pas par la chair qu'on combat, mais c'est par l'esprit. C'est pas avec les pensées humaines, les manigances humaines, mais c'est par la confiance en l'Éternel. C'est ça que le bâton lui rappelle. Fait que quand il adore comme ça, Dieu t'a été fort dans ma faiblesse. Dieu t'a été fidèle dans mon infidélité. Dieu t'a été vrai alors que je croyais des mensonges, que je suis capable de m'en sortir moi-même. Le bâton rappelait tout ça. C'était son héritage spirituel qui lui rappelait que Dieu l'a frappé au plus fort de son corps, mais aussi de sa capacité à gérer pour que ça soit un souvenir permanent que Dieu est grand en fidélité, en compassion, en miséricorde. Autrement dit, ça lui faisait reconnaître la longanimité de Dieu. Et quelle grâce que Dieu nous donne à nous aussi de le bénir en nous donnant comme ça des rappels permanents de notre faiblesse inhérente, parce que nous sommes faibles, ça fait partie de la condition humaine. On aime ça à se croire fort, puis le monde veut exalter la force, la sagesse, l'intelligence. On a vu ça, sais-tu, la semaine dernière ou l'autre d'avant, avec l'enseignement de l'après-midi, hein, il y en a qui ont une beauté. Puis là, c'est, hey, wow, ils peuvent se confier dans leur beauté. D'autres qui ont une force athlétique ou tout ça, ou d'autres qui ont une intelligence supérieure aux autres. On peut se confier là-dedans. Mais on l'a lu ce matin dans 1 Corinthiens 1, dans la prière, c'est ressorti. Dieu il aime ça à se glorifier avec du monde, au contraire, qui n'ont pas de force, qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de statut social, parce que c'est comme ça que lui est mis de l'avant. C'est exactement ça ici qui arrive avec Jacob. Et c'est ça aussi que Dieu veut nous rappeler en nous montrant non seulement notre faiblesse inhérente, mais la futilité des efforts de la chair. La chair ne sert à rien. Pour moi qui dis ça, c'est Jésus, c'est l'Esprit qui vivifie. Et ça, tantôt je parlais de nostalgie, on peut être reconnaissant pour ça. Moi, je suis reconnaissant que Dieu ait brisé des choses qui faisaient ma force. Moi qui pouvais dire, « Ah, regarde ça, regarde ma situation familiale, pastorale, je peux me glorifier de ça, tout va bien. » Dieu a brisé ça. Ce qui pouvait faire l'objet de ma force, de ma confiance, Dieu dans sa bonté, dans sa fidélité, à dire, « Non, non, je veux que tu te confies en moi. » Dieu a permis que ces choses-là soit au point qu'elles sont, afin que lui ait la gloire puis l'honneur, parce que c'est lui qui bâtit. Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui bâtissent, ils travaillent comment? En vain. Donc Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu me rappelle ça à travers ça pour moi. Puis il y a ça pour vous aussi, ça peut être la condition physique, condition matérielle. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être familial aussi, ça peut être relationnel avec d'autres personnes. Dieu sait comment faire. Dieu change tout. Le brisement, c'est pour restaurer. Et s'il y a quelque chose que Jacob m'enseigne, c'est la beauté du brisement dans la vie de quelqu'un. Oui, Jacob a été brisé, mais il a été restauré. Il a été refait selon le plan de Dieu. Un peu comme Pierre. Pour ça, moi, je fais le parallèle entre Jacob et Pierre. Deux têtes dures, des personnes avec des volontés fortes que Dieu a brisées, mais pour faire de quoi d'extraordinaire. De rédempteur, de libérateur, et tous en ont été bénis. Donc là, j'arrive à ma conclusion, là c'est vrai. J'aimerais un peu ouvrir avec quelque chose d'intéressant pour terminer. Tout comme Jacob en est arrivé à bénir Dieu ici à la fin de sa vie, pour les raisons qu'on a vues dans le message, et qui ont permis comme ça d'expérimenter Dieu dans sa propre peau. Là, c'était plus le Dieu juste d'Abraham, puis juste le Dieu d'Isaac, c'était son Dieu à lui. Ben de même aussi, Dieu veut étendre la grâce de sa bonté dans la vie de chacun, tous et chacun ici. La grâce de ceux qui vivent et qui grandissent dans le fait de bénir Dieu et de multiplier cette bénédiction autour d'eux. Et donc, je pose cette question. Écoutez bien, est-ce que tu vis sur ta propre bénédiction ou sur celle d'un autre? Celle de tes parents? Celle de ton époux, de ton épouse, d'un ami? Est-ce que tu vis la bénédiction de Dieu, que c'est personnel au point d'en déborder ses autres? Parce que ce n'est pas quelque chose qui se manufacture, qui s'emprunte, c'est quelque chose qui se vit dans sa propre peau. Puis là, après ça, ça déborde. C'est vivant. C'est personnel. Tout commence au pied de celui qui est béni éternellement. Savez-vous que ça dit ça de Dieu, que Dieu est béni éternellement? Ça dit dans 2 Corinthiens 11, c'est Paul qui parle. « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. » Dieu est béni éternellement. Et bénir Dieu du Saint, de n'importe quelle situation, c'est là que tout commence. Je vous donne l'exemple. Je peux bénir Dieu du sein de ma faiblesse parce qu'il est tout puissant. Je peux bénir Dieu du sein de mes doutes parce qu'il est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Je peux bénir Dieu du sein de ma peur ou de mes peurs parce qu'il est fidèle, il est amour. Vous comprenez l'idée? Là où je suis, Dieu est là. Puis il est plus grand, il surmonte. Donc, si vous ne connaissez pas Dieu comme votre sauveur personnel, je vous invite à celui qui sauve. J'appelle ça le grand échange, j'aime ça. Est-ce que vous partagez ça quand vous partagez Jésus? Jésus, c'est celui qui a pris la punition pour nos péchés, pour nous donner le plein pardon. C'est lui qui est mort afin qu'on puisse vivre. C'est lui qui a été rejeté afin qu'on puisse être accepté par Dieu. Le grand échange est absolu dans tous les domaines. Puis ça, je dis, qui voudrait refuser une offre aussi parfaite et complète? Je veux dire, donnez-moi tout ce que vous avez de mauvais, de honteux, que vous ne voulez même pas dire aux autres, puis moi, je vais vous dire tout ce qui est honorable et beau, puis vous allez pouvoir vous glorifier de ces choses. C'est ça le deal que Dieu offre, c'est le grand échange. Passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Wow! C'est pour vous. C'est aussi pour les enfants de Dieu. Dieu nous invite à vivre et à grandir dans ce grand échange. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas mon passé qui me définit, c'est pas mes luttes avec le péché présent. Je veux pas être dans le déni par rapport à ces choses-là, mais je veux pas me laisser définir par ça. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas mes circonstances, c'est pas ma vie, mon passé. C'est ce que Dieu a fait de moi. Et ce qu'il continue à faire avec moi. Dans les deux cas, que ce soit pour recevoir Jésus ou pour vivre sa vie, il faut se confier en lui. C'est la confiance. La confiance, c'est simple, mais c'est beau. En fait, la confiance, Jésus a dit que c'est même enfantin. Si quelqu'un ne vient pas à moi comme un petit enfant. C'est total. Et c'est porteur de grâce, ça porte du fruit. Que Dieu puisse porter ce fruit dans chacune de nos vies. Seigneur, merci ce matin qu'on a pu s'arrêter ensemble avec les paroles de vie et que Jacob, qui est mort depuis des milliers d'années, nous a encore enseigné ce matin parce que c'est toi, Seigneur, qui es béni éternellement, qui était actif dans sa vie et dans la vie de ceux après lui, dont nous faisons aussi partie. Merci aussi pour le plus grand et le meilleur Jacob, Jésus-Christ, qui a été fidèle en toutes choses, qui n'a pas été dans la manigance, qui s'est soumis en tout point à toi, notre Père, afin de nous amener la rédemption. Merci pour la croix du calvaire, merci pour la grande victoire, le grand échange. Merci que c'est offert à tous, toi qui ne veux qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, à la connaissance de la vérité. Merci que nous, tes enfants, On est béni éternellement en toi, étant dans le bien-aimé, accepté, aimé, chéri. Merci Seigneur, on te bénit au nom de Jésus. Amen.